conférence sur le regard de philosophie sur la paternité de Dieu par le Père Marie-Dominique Philippe le 12 juillet 2001 à Saint-Judas.
Toute cette recherche à partir du jugement d'existence, ceci est. Ce jugement d'existence est toujours présent à toute démarche philosophique. Et ceci, c'est très important de le comprendre, pour garder le réalisme. On ne fait pas la philosophie des possibles. Le philosophe n'est pas un prophète. Le prophète reçoit l'inspiration de Dieu. Et il vit l'inspiration et il est sur les possibles. Ce possible arrivera. Ce possible viendra. Tandis que le philosophe part de ce qui est. Et toujours en relation avec ce qui est. Et en définitive, le philosophe sera toujours en relation avec lui-même comme homme et son ami. C'est très étonnant ça. Parce que parmi les réalités que j'expérimente le monde physique, j'expérimente le monde du travail, j'expérimente les hommes responsables de leur vie, les hommes politiques, j'expérimente l'univers de vie végétative et de vie animale. Parmi toutes les réalités que j'expérimente, l'homme est la réalité la plus parfaite. C'est en ce sens que je peux dire que le philosophe cherche à connaître l'homme. Tout le reste, il le connaît en fonction de l'homme. Il ne cherche pas à connaître le monde physique pour le monde physique. Non, c'est faux. Le monde physique m'intéresse comme homme. Le monde, le ciel de Decello m'intéresse comme homme. L'astronomie. Vous voyez, c'est la très grosse différence avec les sciences à type mathématiques où on étudie les choses en elles-mêmes, pour elles-mêmes, et non pas par rapport à l'homme. Et ça, aujourd'hui, c'est très important de savoir ça, de comprendre que le philosophe, il est philosophe pour l'homme, pour connaître la grandeur, les faiblesses, les pauvretés et les qualités de l'homme. Il y a, à ce point de vue-là, deux moments très importants, peut-être en dire trois, mais je dis deux, deux moments très importants pour la philosophie, ce qui est le sommet de la vie morale, ce qui est, alors c'est la recherche de mon âme, la recherche, existe-t-il un être supérieur à l'homme ? Vous voyez, il y a donc trois grandes recherches qui se tiennent, mais qui sont très différentes. La première recherche, c'est la clé de l'éthique. Étant donné que l'homme travaille pour sa famille. L'homme travaille pour vivre. Le travail n'est pas une finalité absolue pour l'homme. Il est une certaine finalité qui fait partie du milieu dans lequel il va pouvoir vivre. L'homme se défend contre l'univers, contre le froid, contre la chaleur. On n'est pas encore trop mal ici, malgré la chaleur. Mais ça, c'est l'homme qui se défend. L'homme a besoin de se défendre contre les animaux, les petits serpents, contre les gros serpents, c'est-à-dire des sangliers, contre les ours, il se défend. L'homme se construit une baraque. Il se construit des bourrettes, des brouettes, la rue. Hein? Très important. Et ainsi de suite, vous voyez. L'homme est travailleur. Et on oublie hein, ça aujourd'hui parce que on construit un espace intentionnel, fictif. Et on oublie l'espace réel. C'est très curieux, ça. C'est pour ça que c'est si difficile de faire de la philosophie aujourd'hui. Parce que le milieu physique réel dans lequel je suis et le milieu conventionnel dans lequel je suis, ils sont très liés. À tel point que certains aujourd'hui considèrent le conventionnel comme premier. Je me souviens avoir parlé de l'amitié à des religieux, à des saints religieux, aux noviciats, ils étaient jeunes. Et je n'arrive pas à leur faire comprendre que l'amitié était une réalité qui touchait notre personne. Il faisait partie de notre personne. Pour eux, c'était conventionnel. Oui, l'amitié, c'est conventionnel. On a des amis, on peut très bien ne pas en avoir. Vous ne comprenez pas que le mariage était une réalité naturelle. Non, c'est conventionnel. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Hein. On établit des lois qui ne sont plus fondées sur la réalité et sur la finalité. Alors j'allais pousser et je dis, alors, puisque c'était des religieux, votre vie religieuse, elle est conventionnelle. Alors ils ont hésité. Eh bien, oui. Je dis, ah bon, merci, très beau. Moi, je croyais que vous étiez religieux par amour pour Dieu. Ah, Dieu est conventionnel. Ah. Il commençait à trembler. Parce que dire que Dieu est conventionnel, ils étaient chrétiens quand même. Hein. Dire que Dieu, c'est conventionnel. C'est Dieu, ah oui, Dieu existe pour qu'il soit plus sage. Non, Dieu est plus réel. J'avais envie, je leur ai dit, Dieu est plus réel que vous, vous savez. Si important que vous êtes, je vous respecte. Mais Dieu est une réalité plus vraie que vous. Et votre vie religieuse, c'est une réalité naturelle. On est naturellement religieux. C'est pas une réalité chrétienne, premièrement. C'est une réalité religieuse humaine. reconnaître l'existence de Dieu et l'adorer, c'est naturel pour l'homme. Il manque quelque chose à l'homme si on nie l'existence de Dieu. Il y a un psychanalyste autrichien qui avait dit « Nier Dieu, et dans la mesure où ça augmente, ça enlève toute solidité et ça augmente l'angoisse. Et un monde qui a été chrétien, qui a été religieux et qui arrive à nier l'existence de Dieu finira par l'angoisse. Une angoisse telle qu'on aura peur du terrible Dieu. Et c'est vrai, je crois, philosophiquement. On y reviendra là-dessus, parce que ça m'a toujours beaucoup frappé de voir que le fondement de l'angoisse, c'est que on n'a plus de père. On est des orphelins qui ne savent pas d'où ils sont. C'est embêtant. J'ai connu comme ça quelqu'un qui avait été, dès sa jeunesse, toute petite, abandonné et recueilli par une famille. Et arrivé à un âge de 18 ans, cette personne, cette jeune fille, voulait à tout prix connaître ses parents, ses vrais parents. Et elle a tout fait pour ça. Et elle a trouvé que ses parents, tous les deux, étaient en prison. C'était terrible pour elle. On comprend ça. On a une stabilité quand on sait d'où on vient. Peut-être pour ou contre, hein, mais pour ou contre, c'est quand on a encore quelque chose. Hein. On a quelque chose à manger quand on est contre. Et on a quelque chose à aimer quand on est pour. Tandis quand on ne sait pas, c'est l'angoisse. L'angoisse, c'est une peur sans objet. L'angoisse, on ne sait pas d'où ça vient. C'est une peur sans creux. C'est un creux sans fond. Quand on sait la profondeur du creux, ce n'est plus l'angoisse. Mais quand on ne sait plus la profondeur, quand on ne sait pas la profondeur du creux, on est angoissé. Parce que ça peut crouler, crouler, crouler. Alors, je crois très important de comprendre que l'amour d'amitié, la philia grecque, l'amour d'amitié, c'est le nœud de toute ma vie morale, de ma vie éthique. Parce que très souvent, on cherche sur quoi repose la morale. Ricoeur a cherché ça toute sa vie. Quand je lui dis, mais c'est l'amitié, il m'a dit peut-être. Ah, ce serait très bien si c'était amitié. Et chercher. Parce que l'amitié représente ce qu'il y a de plus parfait comme expérience concrète. Comme expérience singulière. Une personne en face d'une autre personne. Et toutes les deux se disent « je t'aime » comme un secret. L'amitié se noue autour de l'ami qui annonce, qui déclare « je t'aime ». Je t'aime vraiment, toi. Et il ne peut dire cela que s'il sait que l'autre l'aime. Et on m'a raconté cette petite histoire. Hein. C'est un bon petit paysan qui travaillait à la ferme de son père. Il arrivait à un certain âge, il a envie de se marier. Et il ne voyait personne, il travaillait tout le temps. Alors il s'est donné, il a eu cette idée, c'était en Normandie, il a eu cette idée normand, de dire, pour trouver une fille sérieuse, il faut aller à la messe le dimanche. Comme ça, je serais à peu près sûr qu'elle soit sérieuse. Alors il était à la messe du dimanche, non pas pour le point de vue religieux, mais pour découvrir celle qu'il aurait pu aimer. Alors à la place de regarder l'hôtel, il regardait toujours les gens. Puis au bout d'un certain temps, son regard s'est arrêté sur quelqu'un. Puisqu'il l'a regardé avec beaucoup d'affection, l'amour grandissait. D'autant plus qu'il était seul, l'amour grandissait. Donc, elle était charmante, elle était comme en vitrine. Pendant la messe, elle priait. Et bien, au bout d'un certain temps, c'est lui qui m'a raconté ça. Au bout d'un certain temps, il s'est dit, ah, comment je vais lui dire que je l'aime? Parce qu'elle, elle ne pense pas à moi, elle prie. Pendant la messe, elle ne vient pas à la messe pour regarder les garçons qui sont sérieux. Non, non. Elle prie. Alors, comment lui dire ça? Elle a dit, une fois je suis bien sorti en même temps qu'elle, derrière, mais elle parlait à une copine. Je ne peux pas lui déclarer que je l'aime avec sa copine à côté. Il faudrait dire que j'aime les deux. Non, non. C'est pas la copine, non, c'est lui. C'est elle que je veux. Alors, dans sa petite tête, c'est charmant, tu vois. C'était charmant comment il le racontait. C'est pour ça que je le vois encore racontant ça. Je suis sorti, elle était devant. Ah, puis, il n'y avait qu'un seul moyen. Je lui donnais un bon coup de poing sur l'épaule. En lui donnant un bon coup de poing sur l'épaule, elle m'a regardé et a dit, je t'aime. Ça dit quelque chose. Dans les livres, dans les choses, on a les confidents. Oui, ça, c'est artificiel, vous voyez. On a des confidents. On raconte aux autres qu'on aime bien quelqu'un, mais comment lui dire? Tu la connais mieux, tu peux le dire. Ça, c'est plus facile de dire qu'un autre t'aime, pense à toi. Mais quand on est seul, on n'a pas de connaissance. Comment dire à quelqu'un, je t'aime? C'est quelque chose, ça. Tiens, je t'aime. Ben, c'est plus facile de dire je suis. Tandis que dire je t'aime, pas commode. Hein. Et que ce soit sérieux, que ce soit pas du tout une fantaisie, du bal. Un moment de joie. Non, c'est sérieux. À la sortie de la messe. Particulièrement sérieux. Je t'aime. Alors, il n'a pas entendu l'autre qui lui dit, et moi aussi. Et c'était ce qu'il aurait voulu. Mais il savait bien que c'était impossible. Alors c'était déjà bien qu'elle le regarde. C'était la première fois que leur visage était si près. Je t'aime. Et puis on a bavardé. on s'est dit au revoir. Et dimanche suivant, j'ai pas eu besoin de taper sur l'épaule. Je suis venu tout près. Et puis au bout de plusieurs fois, elle a commencé à me regarder d'une autre manière. Je comprenais qu'il y avait quelque chose. Et c'est vrai, on ne pense pas assez à cette expérience intérieure d'un premier amour sérieux, grand, qui vous prend profondément à l'égard d'un autre. Et il faut inventer un moyen de pouvoir dire à quelqu'un sérieusement et qu'elle le prenne pour du sérieux, je t'aime. Et l'amour d'amitié implique qu'il y ait une rencontre de deux qui disent du fond de leur cœur, je t'aime. Il faut cette rencontre. C'est très mystérieux, hein ? Philosophiquement, c'est pour ça que les philosophes ne regardent pas beaucoup ça, parce que ça dérangerait leur philosophie. Les Grecs ont regardé ça très sérieusement. Aristote, sérieux, il a dans l'Éthique à Nicomaque deux livres sur la philia, sur 10 livres. Deux livres sur la philia. Et il reconnaît que l'amitié, l'amour d'amitié, est au-dessus des vertus. Les vertus, c'est pour pouvoir aimer vraiment quelqu'un. Parce que c'est vrai, si on n'a pas de tempérance, on n'a pas de force, si on est colérique, on se mettra facilement en colère. Et la colère brise le contact. C'est froid. Si on n'est pas vertueux, on prendra facilement tout ce que tu as est à moi. C'est très bien ça, c'est très agréable. Quand on le dit réciproquement, ça va à peu près. On s'y retrouve, n'est-ce pas ? Mais quand c'est toujours du même côté, tout ce que tu as est à moi. Tout. Puisque tu m'aimes. Ça ne peut pas durer très longtemps, ça. On comprend vite qu'il y a quelque chose qui manque. Si on est l'ami de quelqu'un, on se donne. Et tout ce qu'on a est à lui, mais il faut aussi que l'autre dise la même chose. Tout ce que j'ai est à toi. Et que ce soit mutuel. C'est vrai, il y a quelque chose de très mystérieux qui dépasse l'analyse. On ne peut pas analyser ça. L'expérience nous montre que c'est comme ça. Et qu'il y a quelque chose de très positif, c'est aimer l'autre ami, l'autre qui m'aime. L'ami, c'est celui qui m'aime, c'est celui que j'aime. Et un véritable ami, je ne l'aime vraiment que quand lui-même a dit qu'il m'aimait. Quand l'autre me dit qu'il m'aime, j'ai confiance. Soudainement, quelque chose de mystérieux, on n'est plus deux, on est un dans l'amour mutuel. Dans l'amour mutuel. Il faut que tous les deux aiment pour qu'il y ait amitié. Il faut cette coopération qui se fait à l'intérieur de l'amour et une coopération profonde. Parce que quand on aime quelqu'un, on aime une personne. C'est une personne qu'on aime. Peut-être peut-être que son regard a aidé l'amour. Peut-être que son sourire a aidé. Mais c'est pas ça que j'aime. C'est la personne que j'aime vraiment. Et l'amour me fait sortir de moi et aller vers cette personne. Si cette personne vers laquelle je vais m'aime, elle-même sort d'elle-même et va vers moi. Et donc il se fait cette rencontre qui fait qu'on a une simplicité nouvelle. L'amour d'amitié est au point de vue expérience pratique, la grande expérience que j'ai. Je crois l'expérience numéro un, parce qu'elle joint l'expérience externe et l'expérience interne. Les deux sont liés, parce qu'il faut que l'ami soit présent. Pas suffisant d'avoir la photo comme je t'aime, comme tu es gentil, je regarde la photographie. Non, la photographie, c'est bien comme souvenir, mais quand même, c'est pas la même chose. Il faut la présence. La présence implique l'expérience externe. On serre la main, on touche. Il a fallu qu'il donne un coup de poing. C'est vraiment extérieur d'un coup de poing. Sentir que l'autre était là, c'était quelqu'un. Et puis, intérieurement, l'amour est une expérience interne. Quand on aime quelqu'un, l'autre ne le voit pas. C'est au plus intime de moi-même que s'éveille cette force particulière. C'est une force particulière, l'amour. C'est quelque chose qui est tout à fait sui generis. L'expérience de l'amour d'amitié est une expérience qui peut aller toujours plus fortement, toujours plus profondément. Elle n'a pas de limite. Je ne dis pas à mon ami, quand je l'aime vraiment, je ne dis pas « je t'aime pour cette journée, demain je ne sais pas ». Non. Je t'aime pour une heure. Non. L'amour est au-dessus de la limite du temps. Elle me fait toucher quelque chose qui est spirituel. Le véritable amour, l'amour passionnel, est toujours limité par le corps. Mais l'amour spirituel naît intérieurement, au plus intime de mon cœur. Il assume cet amour spirituel, il assume les passions, c'est sûr. Il n'y a pas d'amour, d'amitié, sans une certaine passion. Parce que j'aime avec mon corps et mon âme. Et c'est pour ça qu'il y a la présence physique. Et il y a, en plus de la présence physique, un véritable amour, au plus intime de moi-même. C'est l'expérience humaine la plus parfaite. Je crois qu'il faut bien comprendre ça. Et c'est très important de comprendre ça. C'est comme le sommet de l'expérience de la responsabilité, de l'expérience que j'ai du devoir, que l'expérience que j'ai, je veux faire ça, je suis engagé dans l'amour d'amitié. Quand je dis à quelqu'un, je t'aime, je te choisis, l'esprit, le choix. Le choix à l'intérieur de l'amour fait qu'il y a l'intelligence et l'amour. Il faut avoir réfléchi longuement pour qu'une véritable amitié s'établisse. Les Grecs disaient qu'il fallait tout un baril de sel pour qu'il y ait une amitié. On voit ce que ça veut dire. Le sel pour sceller pour les repas qu'on prend avec la vie. Il fallait tout cela pour qu'il y ait vraiment une amitié. Je sais qu'on vit un monde où tout est beaucoup plus rapide, même l'amitié. Et les amitiés vont beaucoup plus vite que du temps d'Aristote. Mais elles sont peut-être moins profondes. Mais véritable amitié finalise ma vie morale. Je dis bien finalise ma vie morale. C'est l'ami, c'est une fin. Pour lui, je fais tout ce que j'ai fait. Je l'aime. Et je l'aime pour mon bien. Et je l'aime pour lui-même. Les deux sont intimement liés. Il est ma fin et je suis sa fin. Je le finalise et il me finalise. C'est très étonnant ça. Et c'est important, puisque si ma philosophie part de l'expérience, si je dis que ma philosophie part de l'expérience, je veux savoir quelle est l'expérience la plus parfaite. Est-ce que l'expérience la plus parfaite, c'est d'être cosmonaute? C'est une expérience extrêmement intéressante, je ne l'ai pas. Hein. C'est vrai, ça doit être très intéressant. Je comprends que ça attire, mais au fond, on est prisonnier, en même temps que c'est très nouveau, mais on est prisonnier d'emporter son atmosphère. La lune n'est pas un milieu vital, puisque la première chose qu'on fait, c'est de regarder s'il y a la vie. Et on s'aperçoit que non, impossible. La lune passe par des écarts. Il n'y a pas l'atmosphère. Et je suis obligé de vivre avec des bouteilles qui me donnent l'atmosphère. Tout ce qu'il faut. Donc, j'emporte. Je suis comme dans une prison. Une prison qui me permet de vivre. Et à travers ça, je vois un monde tout à fait nouveau. Et je vois la terre comme je l'avais jamais vue, toute bleue, extraordinaire. C'est vrai, ça doit être assez curieux de voir la terre du haut de la lune. Un horizon extraordinaire. Hein. Et puis redescendre de la lune à la terre, c'est une petite expédition. Espérons que tout va bien, parce que c'est un petit voyage. Hein. Mais cette expérience-là n'apporte pas grand-chose. Elle me fait comprendre cette chose inouïe que j'oublie trop vite, que je vis dans un climat, une atmosphère qui est humain. Je ne pourrais pas aller dans le soleil. Hein. Non, je serais grillé avant. Impossible. La lune, il y a encore l'avantage qu'on peut y aller sans être grillé. Et les autres planètes, peut-être. C'est plutôt de l'exploit qu'une expérience philosophique. C'est vrai. C'est plutôt une chose extraordinaire, manifeste, quelque chose de grand, le moyen d'aller jusque-là. Comme expérience du vivant, une réalité autre que moi, la plus grande, c'est celle que j'ai avec un ami. C'est la plus belle. J'aime un autre homme. La plus grande expérience que vous avez en dehors de l'ami, c'est vous. Ces deux expériences se tiennent, c'est vous. Ceci est, je suis. Ah, vous retrouvez ceci est, je suis au niveau amical. Ceci est, ah, c'est l'ami. Je suis, c'est moi. Et nous aimons. Et alors l'amour va unir ces deux expériences. Ceci est, je suis. Et va les unir, j'allais dire, d'une façon remarquable, d'une façon assez extraordinaire. Parce que j'aime l'autre dans ce qu'il a de plus grand. Et je me découvre dans ce qu'il a de plus grand. C'est quand j'aime un ami que je suis grand et noble. Et l'ami, quand il est aimé par l'ami, a une noblesse, une grandeur, une dignité unique. Quand il s'agit d'un véritable... d'une véritable amitié. C'est très étonnant, ça. Et c'est très beau de comprendre que toute la philosophie pratique a comme clé de voûte l'amour d'amitié. Tout y est. Et c'est la plus grande amitié. Réfléchissez, vous n'avez pas d'autre expérience plus grande, puisque le cosmonaute n'a pas beaucoup d'expérience. Il pense à lui beaucoup, le cosmonaute, pour avoir de quoi respirer. Et puis il regarde, et il ne peut pas serrer la lune avec sa main. Oui, avec des tas d'épaisseurs particulières, autrement, je serais gelé. Alors, si ma plus grande expérience est vraiment l'ami, toute ma philosophie doit tourner autour de ça. Et je dis bien, toute ma philosophie pratique tourne autour de ça. Pour mon ami, je deviens génial. Et c'est vrai. Quand vous avez un ami artiste, il vous le dit. Viens auprès de moi. Quand tu es là, c'est curieux. Mon inspiration double. Même sur l'artistique, l'amitié joue. Si je suis un homme politique, j'aime avoir un ami parce que les autres hommes politiques, je m'en méfie. Ils ne pensent qu'à dépasser, avoir un beau poste. Ils mentiraient pour ça. Un ami, je suis sûr de toi. Je peux te dire toutes mes faiblesses. Je sais que tu es là. Et je sais que tu m'aimeras. Et donc, la connaissance de l'homme, grâce à l'ami, peut se faire bien plus intense. Je te connais, je t'aime. Au-delà de l'amitié, y a-t-il quelque chose ? Oui, il y a une connaissance de ce qui devient, de ce qui se meut, de ce qui est. J'ai une triple connaissance du devenir, du vivant, de l'être. Et si je réfléchis bien, mon ami me donne la merveilleuse expérience du devenir et de moi-même. Parce que je vois mon ami qui a changé. Non seulement de lieu, mais lui-même. Mon ami a progressé, le vivant. Mon ami existe. Et je vois que même là, ces trois grandes connaissances spéculatives, la connaissance du devenir, la connaissance du vivant, la connaissance de l'être, mon ami me permet d'avoir auprès de moi une connaissance plus parfaite de ce qui devient, ce qui change, de ce qui se meut, de ce qui est. Mon ami et moi-même, je dis à mon ami, tu changes. Et mon ami répond, et toi aussi tu as changé. Et nous voulons comprendre ce que c'est que le fait de changer, devenir un être qui devient. Parce qu'il est imparfait, alors il a besoin de devenir un être qui est capable de se mouvoir, le vivant, qui est capable de colère, qui est capable de désir, qui est capable, qui a été capable d'être un petit enfant dans son berceau. Quand vous voyez un enfant qui est dans son berceau, vous vous dites, j'ai été cela. J'ai été comme ça. Ma mère m'a aimé quand j'étais gosse comme cela. Et ce qui est prend une signification très spéciale quand je dis à mon ami, tu es. L'être en toi est quelque chose de très précieux que j'aime. Et tu es à la fois semblable à moi et différent. Et il y aura toujours une différence entre nous. Je vois que toute cette recherche philosophique du devenir, du vivant, de l'être, je peux le regarder dans mon ami. Et c'est très étonnant. Et ce n'est plus quelque chose de lointain, c'est quelque chose de proche. Mon ami, ce que les anciens disaient, mon ami me donne une image de l'univers toute proche. L'homme est comme un petit univers. Il est, il devient, il vit. Et il a en lui une vie végétative, une vie sensible, une vie spirituelle. C'est extraordinaire d'avoir, grâce à l'ami, j'allais presque dire, mon atelier philosophique où je peux expérimenter le devenir, le vivant et l'être, avec moi. Ensemble, nous faisons cette expérience. Et cette expérience prend une signification très extraordinaire, alors, très vivante. C'est donc vraiment, mon ami, l'expérience que j'ai de mon ami, la plus grande expérience que j'ai du monde pratique et du monde spéculatif. De sorte que, lorsque je vois mon ami, je peux dire que j'ai tout le monde créé, du moins le monde expérimental, disons ça, le monde expérimental, immédiatement expérimentable, à ma portée. Mon ami est mon atelier le plus cher, le plus merveilleux. Alors, je me pose la question, est-ce que mon ami est la réalité suprême? Est-ce que je suis, pour mon ami, la réalité suprême? Mon ami, c'est bien ma fin, je l'aime pour lui-même, et je suis bien fin pour mon ami. Tous les deux, nous faisons cette expérience très, très belle de notre propre finalité, ce pourquoi nous vivons, ce pourquoi nous aimons. Est-ce que cette expérience exclut toute autre expérience? Est-ce que cette expérience est totale? Je dirais d'abord, non. J'ai un ami, mais ça n'exclut pas d'avoir un autre ami. Et on le dira à son ami, j'ai rencontré quelqu'un, ah, je crois que celui-là aussi, il ferait bien de nous connaître et de nous aimer. Et donc je vois qu'il y a quelqu'un d'autre. Je ne suis pas tout. Et je ne peux pas réclamer de mon ami d'être tout pour lui. Ce serait une jalousie terrible. Tu m'aimes, et bien à partir de là, tu n'aimeras plus personne d'autre. Vous n'avez jamais dit ça à votre ami. Et vous sentez très bien que vous ne pouvez pas dire ça à votre ami. Ce serait le tenir en laisse comme un animal, comme le chien. On tient dans les seins. Puisque tu es mon ami, je t'accorde une petite corde assez longue, oui, tu pourras courir autour, mais tu resteras toujours là. Quelquefois, ça se passe comme ça. Il y a des jalousies terribles qui font que je te permets d'aller à 5 km, pas plus loin. Je te permets d'aller à 100 km, pas plus loin. Et puis, tu me téléphoneras tous les soirs pour être sûr que tu penses encore à moi. Non, je vois que mon ami, c'est mon ami, mais il est limité. Mon cœur est capable d'aimer d'autres personnes. Alors, je mets ici entre parenthèses l'exclusivité de l'époux à l'égard de l'épouse, de l'épouse à l'égard de l'épouse. Et c'est vrai, il y a ça, et il y a une amitié. Alors là, c'est un cas particulier, c'est le mystère de la famille. je ne m'y arrête pas. Ce serait intéressant d'avoir une session sur la famille. Mais c'est autre chose. C'est vrai, l'amour d'amitié dans le foyer me montre que cet amour est limité aussi. Un homme qui choisit son épouse, une épouse qui choisit son ami, son époux, sait que cet ami, que cette épouse est limitée. Elle n'est pas Dieu. Mais est-ce que Dieu existe ? Est-ce qu'il existe un être plus grand que mon ami ? J'ai pas d'expérience directe de ça. J'ai jamais découvert quelqu'un qui a un cœur aussi grand que mon ami, aussi merveilleux. Je me pose la question. Vous voyez, je me pose la question de Dieu à partir de mon ami. C'est très important, ça. C'est à partir de mon ami que je me pose la question de Dieu. Et ça, nous le verrons demain. Parce que c'est très important, ça. Nous verrons très rapidement ce que dit Thomas d'Aquin comme moyen de découvrir Dieu. Et je dirais que la plupart du temps, on a mal compris Thomas d'Aquin. Et c'est pour ça qu'on n'a pas vraiment découvert. Et je reviendrai sur l'amour d'amitié pour dire que c'est le moyen le plus rapide, le plus efficace pour découvrir l'existence de Dieu.